Bonjour, vous écoutez l'épisode 27 du podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui de dialoguer en communication non violente, en CNV. Je m'appelle Séverine Feiss, après 20 ans de REP plus en maternelle comme enseignante, je suis maintenant accompagnante à la parentalité et je vous aide à faire le tri entre tous les besoins des rayures de l'arc-en-ciel, des besoins de vos enfants, les vôtres, et de trouver comment répondre à nos émotions, à notre cheminée des émotions, à les accueillir et à trouver du temps pour savourer des bons moments en famille, des tequilles. Cette notion de dialoguer en CNV, j'en parle beaucoup sur Clubhouse, dans les rooms, sur la parentalité et sur l'éducation, et j'avais envie de vous faire un petit point aujourd'hui. Donc c'est un thème qui est vraiment très riche, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer aujourd'hui, mais vous faire une petite initiation de ce que c'est le dialogue en CNV, donc en communication non violente. Le premier intérêt de dialoguer avec notre enfant, mais vous allez voir que ça concerne aussi notre conjoint ou même notre famille proche, hein, voire notre environnement professionnel, c'est vraiment de commencer à entendre et d'attirer l'attention de l'autre pour se connecter à un thème conjoint. Un thème conjoint, c'est dans le sens on va regarder ensemble ce thème-là, cette proposition-là, ce sujet-là, et on va essayer dans le moment présent de voir quelle serait la meilleure option, la meilleure sortie, la meilleure proposition qui pourrait à tous les deux convenir, une sorte de compromis. Donc l'idée du dialogue, c'est vraiment d'aboutir à une solution qui puisse satisfaire les deux personnes du dialogue, donc soit le parent et l'enfant, soit le parent et l'autre parent, soit le parent et un autre adulte de son cercle. Et quand on donne de l'intérêt à la parole de l'autre, quand on lui laisse dérouler sa pensée et sa parole, quand on lui montre en fait qu'on est à l'écoute de ce qu'il veut nous communiquer, on fait redescendre la pression, on permet en fait une certaine horizontalité, comme dans l'épisode 2, qui désamorce en fait la crainte de ne pas être entendu, la crainte d'être rejeté, la crainte d'être manipulé. Donc toutes ces peurs qu'on trimballe un petit peu malgré nous de façon inconsciente, quand on sent que l'autre nous écoute vraiment, quand on sent qu'il est à notre disposition verbale, hein, dans un dialogue vraiment constructif, on peut relâcher les armes et vraiment se connecter au cœur de l'autre. Ça permet des questions ouvertes, ça permet de laisser le choix de la réponse à l'autre, ça peut être le choix du silence aussi. On en a parlé un peu dans l'épisode 19, hein, sur oser parler, on en a parlé aussi un peu dans laisser l'enfant faire ses propres choix. Il y a des moments où l'autre n'est pas disponible pour dialoguer et ça nous demande aussi un petit peu de patience de notre part. Quand nous, on est prêt à dialoguer, l'autre ne l'est pas forcément. C'est valable pour les enfants, pour le conjoint et une fois de plus pour nos collègues. Donc, à travers ce thème de dialoguer, on va parler à la fois de la rayure de sens et de compréhension du monde, hein, comment fonctionne le dialogue avec l'autre, et aussi, bien sûr, de la rayure d'expression. Ce sera presque des outils pour donner un peu des repères à l'autre, pour se dire qu'on n'est pas là pour le juger, ou pour le valider, ou pour le conseiller, ou pour le critiquer, mais on est là pour comprendre son point de vue, pour comprendre ses arguments, sa position, non pas pour nous soumettre à l'autre, mais pour entendre dans quelle mesure ses arguments à lui et mes arguments à moi pourraient coopérer éventuellement vers une sortie commune. Donc en communication non violente, on écoute et on se connecte avec empathie avant même de répondre. Voire, on n'est même pas obligé de répondre. Une partie des exercices du fondateur Marshall Rosenberg permet de faire ce dialogue en intérieur avec nous-mêmes. Quand j'écoute parler quelqu'un, que ce soit ma fille, mon conjoint ou un collègue, je peux très bien l'écouter de l'intérieur, faire ce travail de qu'est-ce qu'il ressent, pourquoi il me dit ça, de quoi est-ce qu'il a besoin, quels sont les faits, est-ce qu'il n'y a pas une empreinte de jugement ou de critique, qu'est-ce que je reçois quand j'entends ces mots à lui. Et tout ce travail intérieur, donc il va plus ou moins vite, hein, suivant la pratique. Même moi, au bout de 5 ans de pratique, je n'ai pas encore toute la rapidité pour répondre tout de suite. Mais il peut se faire en silence, il peut se faire dans notre profondeur d'âme et de réflexion, avant même de répondre à l'autre sans lui renvoyer l'énergie, l'émotion, la colère ou les arguments qui étaient prêts à sortir de tac au tac, hein, en mode vraiment réactif et non pas constructif. Donc de faire cet effort d'écouter absolument tous les mots que l'autre a à nous dire, de voir comment ils résonnent en nous, et ensuite de prendre la part des choses, de ce qu'on veut garder dans les paroles de l'autre, ce qui nous blesse, ce qui nous fait bondir, ce qui nous paraît juste, de faire le point intérieurement nous, avant même de proposer un énoncé à l'autre. Donc ça va beaucoup plus loin que ce que je vous ai présenté dans l'épisode 19 avec l'enfant. C'est non seulement mettre du sens dans ce qu'on va dire nous, mais c'est aussi prendre une certaine distance avec le contenu de ce que l'autre vient de nous mettre dans le dialogue. On ne va pas prendre tout ce que l'autre vient de nous mettre dans le dialogue comme une parole fixe et déterminée et définitive. On va utiliser la première phrase de l'autre, la première partie du dialogue, comme point de départ, comme point de réflexion, à accueillir, à voir comment ça résonne avec nous, notre arc-en-ciel de besoin, notre cheminée des émotions, et voir dans quelle mesure on va poser un énoncé en retour. On va voir si l'autre est prêt à nous écouter, parce que parfois l'autre voulait balancer sa bombe et puis s'en aller. Et finalement, le dialogue n'était pas vraiment constructif, hein. On avait cru que c'était un dialogue et puis l'autre n'est pas prêt à discuter. Ça, c'est une option possible avec l'enfant aussi. L'enfant à qui on parle au milieu d'un parc n'est pas forcément disponible pour nous écouter. Ce qu'il veut, c'est remonter sur le toboggan. Donc, choisir le bon moment. Et quand le moment nous paraît bien choisi, de voir dans quelle mesure on peut, comme un ping-pong, attendre que la balle de l'autre soit sur notre terrain, la renvoyer, attendre que la balle de l'autre soit sur notre terrain, sans couper la parole, sans la surenchère, sans le jugement, la moralisation de « j'ai raison, tu as tort », qui est un des chapitres de la formation aussi en communication non violente. Parfois, on n'écoute pas vraiment pour entendre l'autre, parfois on écoute juste pour répondre et pour avoir raison. Donc c'est des mécanismes qui sont installés depuis très longtemps, hein, suivant l'âge que vous avez. Ça peut être des mécanismes qui sont là depuis 30, 40 ans, 50 ans, qui vont être longs à conscientiser, qui vont être longs à, je ne vais pas dire désactiver, parce que je ne pense pas qu'on puisse les désactiver complètement, mais en tout cas en prenant conscience, en prenant de la hauteur, hein, comme je vous dis souvent, on monte en haut du phare pour voir à quel point ça nous a touché cette parole de l'autre. On voit quel besoin a été affecté, quelle rayure a été touchée dans sa parole. Qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce que ça réveille dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de voir l'autre? Est-ce que j'ai été déçue? Est-ce que ça m'a mis en colère? Donc on fait le balancier entre l'arc-en-ciel des besoins, comme bien souvent, et la cheminée des émotions. Et une fois qu'on a fait le point entre ces deux outils-là, on peut essayer de créer une réponse appropriée à notre instant présent, à notre cheminée des émotions présente, à notre arc-en-ciel des besoins présent, pour que l'autre en face soit dans une vraie authenticité de « j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, je comprends ta position, en tout cas pour moi c'est comme ça », et ensuite de décrire factuellement ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce dont on a besoin réellement, comment on a vécu la situation, non pas pour le convaincre, non pas pour le critiquer, mais pour partager en fait ce qu'on a vécu nous-mêmes de l'intérieur. Pour moi, le dialogue en CNV, c'est vraiment cette notion de « je ne vais rien imposer à l'autre, que ce soit verbal ou physique, je vais juste lui présenter un tableau de ce que la situation me fait vivre, je pars des faits. Je nomme mes sentiments, mes émotions, je nomme mes besoins et je lui fais éventuellement une proposition ou une demande qui pourrait nous faire sortir de ce dialogue de façon plutôt cohérente, plutôt conjointe ou pas, hein, parce que des fois les dialogues sont stériles, on n'arrive pas à aboutir à une option qui nous convienne tous les deux. Mais dans l'intention de se connecter à l'autre, ça veut dire faire la place à la fois à ce que je vis à l'intérieur de moi, et à la fois à ce que l'autre vit à l'intérieur, parce qu'il a aussi son filtre sur la situation. On a beau avoir vécu la même chose, que ce soit avec notre enfant ou notre conjoint, on n'a peut-être pas vécu la même émotion et le même ressenti, même si on était au même endroit, au même moment. Donc cette singularité du discours et du ressenti peut nous pousser à partir dans une réflexion, une réponse qui soit très rapide, qui soit du jugement, de la critique, du conseil, ou alors des fois on va minimiser en disant « Oh, c'est rien, c'est pas grave, il y a des choses plus graves ». Cette façon de répondre du tac au tac ne nous rend pas toujours service parce qu'on a plus l'impression de faire la leçon à l'autre, d'imposer notre vision, de convaincre, quelquefois de nier ce que l'autre veut nous dire parce qu'on est tellement dans notre propre émotion qu'on n'arrive pas à faire la place à la posture de l'autre, à la présence et au vécu de l'autre. Donc si lui il répond selon son filtre et que nous on répond aussi selon notre filtre, on a parfois une incompréhension, un niveau d'énoncé qui va être difficile. Donc quand c'est nous le parent, on peut essayer de se décentrer un petit peu et de voir quel pourrait être le filtre de notre enfant à ce moment-là. Est-ce qu'il est triste? Et dans ce cas-là, sa réponse va être teintée de tristesse, peut-être de frustration, peut-être que ça nous expliquera un petit peu des choses qu'il n'arrive pas à verbaliser parce qu'il est jeune. Et la situation sera différente avec notre patron. Quand on veut essayer de comprendre avec son filtre à lui, peut-être que les impératifs sont plus administratifs, économiques, alors que nous, on voulait de l'émotionnel, on voulait de l'affectif, on voulait de l'humain et de la chaleur. Vous voyez que le filtre n'est pas le même et ça nous permet de dialoguer en fonction de notre filtre à nous et de mieux comprendre comment son filtre à lui empêche et brouille notre conversation actuelle. Si lui, il parle en mode financier, administratif, et que nous, on parle en mode humain et bienveillance, à un moment, c'est deux murs qui s'affrontent, on n'arrivera pas à en sortir. Si on arrive à apaiser, à reformuler à la fois ce qu'on attend de la personne et ce qu'on comprend de ses attentes à lui ou à elle, ça permet de désamorcer, une fois de plus, le dialogue et que chacun puisse poser des arguments et écouter les arguments de l'autre sans savoir à l'avance si on aboutira à un compromis. Donc voilà les premières notions vraiment de manière globale. Il y aurait beaucoup de choses à expliquer sur le processus de la communication non violente. Mais dans l'idée, c'est je vais m'intéresser au ressenti de l'autre. Donc je vous donne un exemple concret. Mon ado, là, elle est fan en ce moment de toutes les séries coréennes, de tous les chanteurs coréens et tout. Donc j'ai tout intérêt à proposer des dialogues sur ses centres d'intérêt à elle pour mieux comprendre ce qu'elle vit de l'intérieur, pour mieux renouer la rayure de relation, pour mieux comprendre sa rayure d'identité, peut-être comprendre sa rayure d'autonomie. Mais le dialogue permet ça, de se rapprocher en fait des centres d'intérêt de nos enfants, de nos collègues, de notre conjoint, pour voir comment eux, ils vivent leur vie, comment ils comprennent leur vie, sans se dire toujours « c'est ma vision du monde qui est la bonne, c'est ma façon de voir le monde qui est la bonne ». Et vous voyez à quel point, dans les médias, on voit ça très régulièrement, les gens sont persuadés d'avoir le meilleur avis sur tout, d'être des experts en tout et de ne pas se remettre en doute de manière publique parce que ça affecterait leur image ou leur estime. C'est un choix. Je pense quand on dépasse cette notion de « j'ai raison et j'ai tort », on laisse à chacun la responsabilité de penser qu'on est d'accord ou pas d'accord avec mes concepts, qu'on est d'accord ou pas d'accord avec la vision de tel expert sur le Covid, tel expert en politique, tel expert en économie. Chacun a encore, heureusement, le droit de penser s'il est d'accord ou pas avec des notions, avec des concepts. Mais l'idée de convaincre les autres est tellement répandue parce que ça donne une bonne estime de soi, de convaincre d'autres personnes autour de nous, qu'on est sur des choses un peu glissantes et dérapantes des réseaux sociaux ou même des mouvements collectifs, associatifs, politiques ou même parfois religieux. Je ne pense pas qu'on ait besoin de convaincre les autres d'avoir raison. Par contre, on peut inspirer et on peut transmettre et contribuer dans la mesure où chacun se sent responsable de ce qu'il pense et de ses idées. Libre aux gens ensuite de s'informer s'ils le veulent, de chercher plus de détails s'ils le veulent et tout, mais de ne pas non plus donner telle quelle la vérité aux gens. Il n'y a pas de vérité puisqu'on a tous des filtres très différents les uns des autres. Le fait de prendre les choses personnellement, en plus, ça nous rappelle toujours qu'on n'a pas du tout les mêmes expériences, les mêmes vécus. Vous, en tant que maman ou en tant que papa, vous n'avez pas les mêmes expériences que moi sur la parentalité. En tant que maîtresse, j'ai eu des expériences différentes. Vous avez peut-être des expériences dans votre famille qui sont différentes des miennes. On a un bagage qui est riche d'expériences, mais qui nous permet parfois des références plus faciles que d'autres, parce qu'on peut se baser sur justement nos fichiers intérieurs, notre base de données, et se dire « Ah oui, bah ça je m'en rappelle parce que je l'ai vécu à telle occasion ». Pour quelqu'un qui n'aurait pas vécu cette situation, c'est plus dur d'appréhender la notion. Et il faut l'implémenter, il faut la décortiquer, il faut la vivre, la ressentir. Et donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles expériences, des nouveaux contacts et des nouvelles idées à confronter, parce que comme ça, ça nous permet de voir si on est d'accord avec, si on n'est pas d'accord avec, qu'est-ce que ça évoque chez nous, qu'est-ce que ça attise chez nous. Et en ça, le dialogue n'est pas toujours un débat. Il peut devenir un débat, mais il peut devenir aussi un système d'écoute coopératif. Et c'est en ça que Clubhouse était vraiment très intéressant, je trouve, sur la partie là d'avril, mai, juin. On a eu vraiment des échanges très riches avec des gens qui venaient de tous les pays. Et j'ai adoré cette manière de proposer, en fait, de s'écouter dans nos concepts différents. On n'était pas toujours d'accord, on n'avait pas toujours les mêmes exemples, mais on était dans un vrai dialogue, dans une vraie écoute et dans un respect, en fait, des ressentis et des émotions des autres et des idées des autres. On peut très bien être en désaccord avec des idées, mais ne pas désavouer la personne ou l'amitié ou le lien qui nous lie avec cette personne. Donc voilà des points vraiment très concrets sur la manière de dialoguer avec les enfants. Du coup, vous voyez à quel point ça peut jouer, notamment en lien avec la cheminée des émotions. J'ai une collègue coach aussi qui avait utilisé dans une de ses newsletters, un petit coucou à Nadège, l'idée d'écharpe relationnelle. Ça veut dire qu'on tient à chaque fois un bout de l'écharpe avec la personne avec qui on dialogue. Et donc, on ne peut pas être responsable de toute l'écharpe. On tient un côté de l'écharpe et si l'autre personne en face veut tirer, veut pousser, veut lâcher, c'est son choix en fait. Et j'aimais bien cette image parce qu'on ne peut pas faire à la place de l'autre, on ne peut pas penser à la place de l'autre, on ne peut pas agir à la place de l'autre. Il y a une liberté incompressible de cerveau, de raisonnement qui est à l'appréciation de l'autre. Et c'est pareil pour les enfants, on aura beau leur répéter les choses 45 fois, si à l'intérieur ça ne fait pas sens, si à l'intérieur ça ne se raccroche pas à une idée qu'ils ont déjà vécue, à une expérience qu'ils ont déjà comprise et assimilée, ça ne peut pas faire sens tant que le déclic n'est pas là. Donc on aura beau dialoguer et dialoguer, si de son côté il ne fait pas le lien et l'intention de se connecter avec nos paroles, nos arguments et notre volonté quelque part de le convaincre, puisqu'on a encore, moi aussi, cette tendance à vouloir convaincre nos enfants que telle ou telle option est la meilleure pour nous, parce qu'on a l'expérience d'être adulte, d'être parent, d'être enseignant, l'enfant va nous regarder, va nous dire oui, et je pense à ma grande aussi là, ils vont nous dire oui, mais ça n'éveillera pas cette lueur de connexion, de cohérence en eux, ce qui fait que le dialogue ne sera pas vraiment horizontal. Il y a une partie de l'écharpe qui sera lâchée par l'autre personne qui, à ce moment-là, ne souhaite pas rentrer dans la conversation et d'être en co-responsabilité du dialogue et du contenu. Donc, on a cette notion de lâcher l'écharpe. On a aussi cette notion que nous, à tout moment, on peut lâcher l'écharpe aussi. On peut très bien refuser un dialogue qu'on semble déceler comme toxique. On peut très bien s'éloigner d'un dialogue qu'on n'a pas envie de subir, que ce soit une personne qui est dans une énergie qui ne nous convient pas. On peut s'autoriser à rompre le débat à tout moment. C'est autorisé. Ce n'est pas parce que ce processus s'appelle la communication non violente qu'on doit se forcer à quoi que ce soit. On peut à tout moment dire « Stop, ça dépasse mes limites, je n'ai pas envie de continuer ce dialogue. On verra si on reprend ça un autre jour ou pas. » Mais vraiment s'écouter, nous aussi avec empathie, pour ne pas forcer à un moment un dialogue qui nous desservirait aussi nous, qui pourrait desservir la personne. Donc, c'est à nous de voir, hein, d'évaluer et de juger. Mais pour moi, le dialogue, il est vraiment des deux côtés de l'écharpe. Il est des deux côtés des personnes qui vont émettre et recevoir en alternance, puisqu'on va alternativement recevoir et émettre le message, et de laisser une marge d'inattendu. Finalement, on ne sait pas à quel point on va aboutir à quelque chose à la fin de ce dialogue. Le temps et la durée de ce dialogue est inconnu au début. On pourra le reprendre plus tard, on pourra le prolonger, on pourra l'écourter. C'est à nous de voir comment mener, comment conduire ce dialogue et peut-être sortir du tout de suite ou du rapidement ou qu'on fait parfois avec nos enfants en disant « Non mais tais-toi, là tu comprends pas, tu le fais et tu te tais ». Cette notion n'est pas du dialogue du coup. Cette notion, c'est imposer notre vision. Ça peut être une question de sécurité, ça peut être une urgence, bien entendu. Mais dans ce cas-là, ne nous voilons pas la face. À ce moment-là, on n'était pas dans un dialogue avec notre enfant. Toutes les phrases qui vont nous permettre de nous connecter avec nos enfants ou avec notre conjoint, ça va être des moments où on va lui proposer de nous dire comment il se sent, comment il voit la situation, comment il a vécu cette semaine de vacances, comment est-ce qu'il voit le prochain week-end, pourquoi est-ce qu'il a décidé de prendre cette option-là professionnelle. En fait, de s'intéresser à l'identité, à la singularité de son ressenti, de ses besoins à lui, pour peut-être mieux comprendre l'éclairage qu'il a donné à ses actions et à ses paroles. Peut-être que pendant son discours, il y a des phrases qui vous ont un peu dérangé et que vous voudriez en savoir plus. Mais le fait de poser des questions ouvertes, de lui demander comment il a vécu tel événement ou comment il s'est senti quand il a dit telle phrase, vous donnera des informations sur son ressenti, son vécu, et vous permettra peut-être à vous de comprendre comment ça a résonné et pourquoi ça a résonné. Donc on peut au début avec nos enfants peut-être le pratiquer, ce dialogue avec des sujets très légers, hein, des sujets sur à l'anniversaire de ta copine, quand vous avez sauté sur le trampoline, comment ça s'est passé, est-ce que ça t'a fait plaisir, est-ce que ça t'a fait peur, comment tu t'es senti. Donc vraiment de créer un dialogue de « je m'intéresse à ce que tu as vécu, est-ce que tu veux bien me partager ce que tu as vécu ?» sans notion de « c'est bien, c'est pas bien hein, », mais là vous avez compris parce que je l'ai dit plusieurs fois. Et quand on aura pratiqué vraiment ces sujets un peu légers, on pourra peut-être s'attaquer à la mauvaise note sur le contrôle de maths du collège ou le conjoint qui a oublié de payer les impôts à la bonne date ou de créer dans ce cas-là des dialogues qui partent vraiment de nous. Hein, très souvent dans les rooms, je dis, si on parle de « je », c'est bien plus facile que de « tu n'as pas fait ci, tu as fait ça, tu n'as pas fait ci, tu as fait ça ». Il y a beaucoup d'auteurs et de chercheurs qui sont partis de ce constat que c'est quand même plus simple de commencer des phrases de dialogue par « je » et de les accompagner de ressentis et d'émotions qui me sont personnelles et qui ne sont pas une projection sur l'autre en face. Et de voir que quand on peut articuler ensuite ce qu'on a compris de la situation, ça n'était peut-être pas du tout l'intention de l'autre de nous faire ressentir cette émotion-là ou d'appuyer sur cette rayure d'arc-en-ciel-là, mais ça nous a touchés d'une manière qu'on n'aurait peut-être pas imaginée. Donc on s'insère dans un dialogue avec l'autre, on voit ce qu'il a à proposer comme action, comme argument, comme ressenti, comme besoin, et ensuite, si la situation le permet, on peut essayer de voir une proposition ou une demande pour que chacun des deux aboutisse à un compromis et sorte la situation là-dessus. Pour tous les détails vraiment techniques du processus de communication non violente, je vous renvoie à tous les livres de Marshall Rosenberg que vous trouverez facilement dans les bibliothèques ou sur les sites hein, de librairie. Il y a plusieurs livres, il y a les mots sont des portes ou bien les mots sont des murs ou bien ils sont des fenêtres. Et il y a beaucoup d'exemples vraiment pratiques. Il a fait toute une collection avec la collection Jouvence aussi, qui sont plus faciles à lire, plus maniables. Et puis il y a d'autres auteurs après qui ont vraiment développé là-dessus, notamment la communication non violente en famille, avec les enfants et tout. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que quand je voyais la façon de parler de certains parents en classe avec leurs propres enfants, je vous en ai touché un mot déjà dans l'épisode 19, mais je me disais que il y avait peu de moments où je ressentais un dialogue, en fait. C'était souvent descendant, c'était souvent j'ai raison, tu te tais, tu fais comme maman a dit, tu fais comme papa a dit. Et dans ces cas-là, voilà, la prise de position à l'oral, verbal et même physique, hein, puisqu'on le ressentait avec certains enfants, était de plus en plus faible, puisqu'ils ne savaient pas si sa parole, si son verbe avait une importance, avait une puissance, voire un pouvoir d'affirmation de soi, parce qu'on ne lui donnait pas toujours l'affirmation de soi ou le pouvoir dans ses mots, dans la valeur de sa parole. Et voilà, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez écouter, si ce n'est pas fait, l'épisode 19, où je vous parlais de oser parler quand on est un jeune enfant. Et puis, tout ce qui concerne la communication non violente, on va en parler dans une des séances du cercle parentalité qui commence la semaine prochaine. C'est un cercle que j'ai mis en place de façon spontanée pour qu'on puisse commencer 2022 avec vraiment des outils et être des parents un peu plus zen. Vous y retrouverez tous les contenus que je vous développe dans ce podcast. Ce sera en live, ce sera les 5 mardis de décembre. On commence le 30, donc mardi prochain, le 30 novembre. Il y a des places limitées. Je ne sais pas à l'heure actuelle s'il reste des places, mais n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail à lppzen@gmail.com pour me dire que vous voulez participer à ce cercle. Il est en participation consciente, ça veut dire que vous déciderez vous-même à la fin du cercle s'il vous a apporté des choses et si vous voulez faire un don. Il n'y a pas de tarif payant obligatoire. Je suis très contente de partager tous ces outils avec vous. Vous savez que j'ai vraiment à cœur de contribuer à de la douceur pour les enfants après avoir vu dans quel état ils étaient en maternelle et vraiment avoir envie de changer les choses sur ce plan-là. Donc prenez bien soin de vos besoins à vous, de parents, à vos arcs-en-ciel de besoins à vous et d'observer un peu chez vos enfants comment vous pouvez vous intéresser à ce qu'ils font, à dialoguer avec eux, à voir quelles sont leurs émotions, est-ce que leurs émotions sont en rapport avec une rayure qui peut-être a besoin d'attention sur leur arc-en-ciel. Voilà, vous connaissez la plupart de mes concepts si vous me suivez depuis un petit moment. Je vous souhaite de très beaux dialogues en famille. Vous savez que les dialogues en famille, c'est aussi un tequila. Quand on se livre à quelqu'un avec empathie et respect, c'est vraiment un beau moment de connexion pour moi et de se dire qu'on est là pour ouvrir notre façon de voir aux autres, mais on est là aussi pour écouter ce que les autres ont à nous dire de leur vécu, de leur filtre à eux. Et pour moi, le dialogue est une des choses vraiment très puissantes, à la fois en éducation familiale, mais à la fois en éducation scolaire. Et j'ai vraiment accentué ça ces 6 dernières années. Je suis contente de vous proposer maintenant tous ces outils-là à ma sauce. Donc merci pour toute votre participation sur les réseaux, vos messages de soutien. Je suis vraiment contente de faire ce chemin avec vous. Je vous dis peut-être au cercle parentalité qui commence mardi prochain. Inscrivez-vous sur les réseaux ou par mail. À très vite. Au revoir.